2. La plus rebelle des radios. La plus rebelle des radios. Wow.
C'est gros, c'est bleu, ça fait pas de bruit, ça se cache derrière le cimetière la nuit. Ça te surveille, ça te suit, ça te guette. Surtout si tu portes une casquette, c'est derrière toi quand tu conduis. Ça veut tes papiers, ton permis, ton alcoolémie et ton touchy. C'est tout le temps vénère et c'est mal poli. Ça te saute à la gueule comme une grosse bête. Un monstre chelou avec trois têtes, trois moustachous dans une estafette. C'est quoi, c'est quoi,
c'est quand même un faux.
Vendredi.
Camille, donne-moi des infos.
C'est 102.2, la radio plus ribelle.
Paniquez pas, niquez tout.
Canu Info du vendredi.
Pronto, bonsoir. Il est 19h03 sur Radio Canu et c'est l'heure évidemment du Canu Info du vendredi. Alors ce soir, qu'est-ce qu'on a au programme?
Alors tout d'abord dans la rubrique locale, on va vous parler de l'expulsion des familles qui étaient dans la place Satonnet jusqu'à il y a quelques jours.
Ensuite on passe à l'école Servet, un nouveau occupé.
Ensuite, on vous lira un communiqué des habitants et habitantes de l'Amphizède pour la manif du 26 septembre.
On aura des nouvelles des enfarineurs qui ont été jugés hier.
Et puis, on parlera du soutien aux deux camarades en procès pour avoir vandalisé du matériel anti-SDF. Excuse-moi.
Et on passera au national pour parler de la loi Elan, suite et presque fin de cet épisode de.
Et loi Elan, toujours, on vous parlera de quelques résistances locales face à cette loi. Ensuite, on fera un petit aperçu de la loi, de la nouvelle loi sur l'asile et l'immigration qui a été validée par la Semaine nationale au mois d'août.
Pour continuer avec un collectif des migrants parisiens expulsés au mois d'août.
Et ensuite, gros dossier nucléaire. Attention, on commencera le dossier nucléaire par l'accident sur le site d'Orano.
Et que ça arrive donc. Et on parlera aussi de l'ouragan en Florence et d'un typhon en Asie du Sud-Est qui ont croisé certaines installations nucléaires.
On continue avec les employés de McDonald's qui ont manifesté dans 10 états américains contre le harcèlement sexuel dans les fast-foods.
Et on finira par le traditionnel agenda. Qui a eu lieu à Lyon cette semaine.
Du Rouennais de la région qui s'appelle Stéphane Boulet.
En région lyonnaise, plus précisément à Pierre-Bénite.
Pour savoir où est-ce qu'on en est, la lutte des instits à Voix-en-Velin.
Petit reportage sur la grève qu'on a dit à les interjouer pendant la masse sur le réseau de Lyon. Canu Info du vendredi. Rubrique locale.
On en a pas mal parlé ces dernières semaines. Des familles s'étaient retrouvées place Satonnet après avoir été expulsées deux fois cet été, une fois des quais de Saône et une autre fois de Vaise. Eh bien, elles ont été expulsées une troisième fois. Et alors, c'était cette semaine. Elles se sont d'abord retrouvées quai de Saône et puis des personnes les ont aidées à remonter. Leurs affaires et tout leur matériel dans les pentes de la Croix-Rousse, place Colbert, où elles sont toujours à cette heure-ci, donc dans un camp de fortune, où elles sont obligées de ranger leurs affaires le matin à 7h du matin et de les ressortir le soir. Voilà, on reste attentif et attentif à ce qui se passe là-bas. On peut évidemment passer place Colbert pour donner de la nourriture, des couvertures, diverses choses pour soutenir ces familles. Et vous pourrez également sans doute trouver là-bas des membres du collectif Ouvrons les yeux qu'on a reçus plusieurs fois à l'antenne. On les retrouvera sans doute ces prochaines semaines.
Et les familles qui étaient place Sato ne sont pas les seules à être à la rue parce que, encore une fois, à l'école primaire Michel Servet, eh bien, les parents et parentes d'élèves et les personnels de l'école ont décidé d'occuper l'école pour mettre à l'abri des familles qui dorment à la rue. Du coup, ce collectif de parents et parentes et de professionnels de l'école est fédéré au sein du collectif Jamais Sans Toi. Et ce collectif, du coup, a alerté depuis le début de l'été les pouvoirs publics sur la situation d'une famille composée de 3 enfants, dont un petit enfant de 1 an qui dort dehors du coup depuis le début de l'été, et malgré toutes ces alertes, aucune solution n'a été trouvée durant l'été. Et donc c'est depuis jeudi dernier, le 20 septembre, que le comité a pris la décision d'occuper l'école pour mettre à l'abri cette famille et une autre famille de l'école qui était également à la rue. Et du coup il est aussi possible d'aller les soutenir du coup à l'école Michel Servet qui est du coup 2 rue Alsace-Lorraine à Lyon 1er, et tous les soirs du coup de aller passer un moment pour soutenir ces familles ou continuer à alerter et demander à l'État du coup de faire son travail d'héberger les personnes qui sont à la rue. Mais du coup ces questions se posent aussi à l'Amphizède où une manif s'organise le 26 septembre.
Et oui, parce qu'entre temps à l'Amphizède l'occupation continue et la lutte également. Au mois de juin dernier, il me semble, il y avait déjà eu un dépôt collectif de dossiers pour demander le dédublinage des personnes qui étaient demandeuses d'asile et qui habitaient l'Amphizède, et il avait été impossible d'avoir un rendez-vous en préfecture. Du coup, compliqué de construire le rapport de force quand on n'a pas en face des personnes qui ont le pouvoir. Donc il y a une nouvelle manif qui est prévue le 26 septembre à 15h30 devant la métropole à 20 rue du Lac. Et moi je voulais vous lire du coup le communiqué qui a été rédigé par les habitants et habitantes de l'Amphizède pour lancer cette manifestation. Nous sommes sous le coup d'une procédure Dublin. C'est-à-dire que nous pouvons être expulsés dans le premier pays de l'Union européenne dans lequel nous avons été contrôlés. En théorie, nous ne pouvons pas faire notre demande d'asile en France. Nous avons fait un parcours du combattant pour atteindre la France. Bien souvent, nous avons subi la violence, le racket, la détention, notamment en Libye, qui est un véritable enfer terrestre. Nous avons traversé la mer sur des embarcations de misère. Nous avons réussi à atteindre l'Italie, l'Espagne ou la Grèce, au péril de nos vies, et nous avons été contrôlés. Les conditions d'accueil y ont été insupportables. Racisme, absence de soins, privation alimentaire, travaux forcés dans des camps, etc. En Italie, la forte percée de l'extrême droite promet un durcissement de ces conditions déjà inhumaines. Voilà ce que l'Union européenne nous propose. Même si la France n'est pas en reste sur les mauvaises conditions d'accueil, racisme, violence policière, absence d'hébergement ou mise à la rue, nous l'avons choisi pour nos réfugiés. Avec le mécanisme Dublin, tout à fait pour rendre cela impossible. Nous avons pour la plupart tout perdu. Aucun retour en arrière n'est possible. Nous vivons ici et c'est ici que nous obtiendrons l'asile. Nous ne nous tairons pas car si nous ne faisons rien, nous devenons de morts-vivants. Le préfet a le pouvoir de passer nos demandes de la procédure Dublin à la procédure normale en vertu d'une clause discrétionnaire de souveraineté. C'est l'article 17.1 du règlement Dublin. Donc, construisons le rapport de force pour qu'il le fasse. Nous demandons une nouvelle fois à être reçus par la préfecture pour déposer collectivement des dossiers de demande de dédublinage. La loi Asile et Migration va durcir considérablement les conditions d'accès aux demandes d'asile. Elle va rallonger la durée de l'enfermement dans les centres de rétention et s'attaquer de manière générale à l'ensemble des migrantes et migrantes exilés. Tous les migrants et migrantes, quel que soit leur statut, sont concernés. Nous devons être unis dans nos luttes. Donc venez nombreux et nombreuses à la manifestation mercredi 26 septembre à 15h30, départ devant la métropole au 20 rue du Lac, pour ensuite se rassembler devant la préfecture à 17h.
Voilà, et toujours sur les questions locales, les questions d'exil, d'accueil et d'hébergement. Hier s'est tenu le procès de deux camarades accusés d'avoir enfariné David Klimsfeld, qui est le président de la métropole, enfarinage qui avait été fait notamment pour visibiliser la politique scélérate de la métropole. On écoute l'un des deux accusés.
On n'avait pas forcément les outils à l'époque pour faire parler de cette situation-là, et du coup la seule chose qu'on a trouvée pour... que justement tout le monde se rende compte quand même que c'était un peu scandaleux de dépenser 1,8 million d'argent public pour sécuriser des bâtiments qui sont vides et il y a des gens qui dorment par terre devant.
Alors voilà, vexé, le président de la métropole qui s'est fait enfariner a porté plainte et après un premier report du procès fin juillet, l'audience s'est tenue hier où les deux accusés ont été notamment entendus à la barre, tandis que Klimsfeld, le président de la métropole, donc, n'était pas là, il n'avait pas fait le déplacement. Et puis au même moment, des acteurs et des actrices ont joué le procès de la métropole. Alors c'était devant le tribunal, hors les murs. Et les auteurs de cette jolie bouffonnade ont notamment rappelé que la métropole sécurisait des bâtiments, comme le camarade vient de le dire à l'antenne, pour empêcher que des personnes à la rue, notamment des mineurs isolés, dont par ailleurs la métropole a la charge, et qu'elle laisse le plus souvent sans solution d'hébergement, comme c'est le cas d'ailleurs en ce moment dans les pentes de la Croix-Rousse, hein, juste en bas de l'esplanade, et bien pour que ces mineurs isolés puissent trouver un toit. Et très souvent, la seule solution, et bien c'est d'occuper des bâtiments illégalement, puisque la métropole ne prend pas ses responsabilités. Donc il y a eu une farce jouée devant le tribunal à l'occasion de ce procès. On aurait bien pu aimer l'enregistrer, mais on s'est loupé. Voilà, alors ce qui est fin du procès, il y a un mois avec sursis qui a été requis contre les deux enfarineurs, délibéré le 6 octobre prochain.
Et ce Canu Info, du coup, se reste un petit peu sur les questions du coup de personnes à la rue, parce que deux militants et militantes sont actuellement en procès pour avoir dégradé du mobilier anti-SDF. Et alors, qu'est-ce que c'est que ce mobilier anti-SDF ? Eh ben, c'est quelque chose qu'on voit tous les jours dans la rue et qui traîne un peu de partout, mais en gros, c'est des petits pics au sol, on croit que c'est pour les pigeons, mais non, pas du tout, c'est pour que les personnes puissent pas s'allonger, des grosses pierres, des petits arbustes, et de plus en plus, ce qu'il y a, c'est soit des bancs, les bancs publics sont plus que pour une personne, ou alors au milieu des bancs, et il y a des espèces de gros arceaux métalliques qui empêchent du coup les personnes de s'allonger. L'idée du coup, c'est que les lieux publics soient plus des lieux de passage, mais surtout en fait que les personnes qui vivent à la rue soient le plus invisibles possible. Et donc notamment, il y a un site internet qui dénonce un peu ces dispositifs anti-SDF en faisant une cartographie. Je crois que c'est la Fondation Abbé Pierre ou un truc comme ça qui fait ce site internet qu'on retrouve assez facilement. Et du coup, les deux personnes qui ont été arrêtées pour avoir dégradé du mobilier anti-SDF ont fait un communiqué. Et du coup, il et elle en fait dénoncent ce mobilier, parce que même s'il est assez discret visuellement, et en fait leur impact est réel, d'abord sur le plan psychologique en fait, parce que ça déshumanise complètement les personnes qui sont à la rue. C'est comme si on mettait un petit peu du répulsif anti-rat ou ce qu'il y avait avant, là, l'espèce de petit truc qui faisait du bip contre les jeunes. Et donc c'est vraiment quelque chose, du coup on imagine que les personnes à la rue se vivent du coup complètement comme rejeté à la fois par la société mais aussi l'espace public, et du coup ça a des conséquences sur le plan social en fait, parce que ça va aggraver le phénomène d'exclusion sociale parce que ça les oblige du coup à s'excentrer toujours plus loin et du coup à finalement un moment à disparaître et du coup perdre un petit peu tout le soutien et les rencontres et les solidarités qu'elles pourraient créer au sein de l'espace public. Et en plus, sur le plan économique, et du coup, ces dispositifs, c'est des accessoires de gentrification, en fait. Parce que du coup, l'idée, c'est de faire prendre de la valeur au quartier en expulsant la misère de plus en plus loin. Et du coup, les deux militants militantes, en fait, considéraient que la phase un petit peu de plaidoyer, de négociation, du coup, ce qui est fait notamment par site internet de la Fondation Abbé Pierre pour dénoncer ces dispositifs était déjà passée, et que du coup, c'était plus la peine de continuer à discuter, qu'il fallait avoir des actions qui permettaient effectivement de faire disparaître ces dispositifs anti-SDF. Du coup, ils sont accusés en mai d'avoir démonté les arceaux métalliques qui étaient fixés sur des bancs de la place Carnot à Lyon. Et du coup, suite à 15 heures de garde à vue, ils ont été convoqués au TGI pour des faits de vol aggravé. Donc vol, c'est le fait d'avoir volé les petits arceaux métalliques pourris qui sont sur les bancs et de les avoir mis dans la poubelle et le aggraver tout simplement parce qu'il et elle étaient deux. Donc du coup ça devient une bande organisée, du coup ça devient un vol aggravé. Et du coup ça fait qu'il risque des dommages et intérêts très importants, du coup jusqu'à plusieurs milliers d'euros et aussi de la prison avec sursis. Du coup, on vous invite à apporter vos soutiens à ces deux militantes lors du procès qui aura lieu dans la chambre numéro 7 du tribunal correctionnel. Qui est, donc ça, ça se trouve, ça se passera le jeudi 27 septembre, donc jeudi qui vient, à 14h. Et du coup, pour info, pour enlever ces petits arceaux, ils et elles ont utilisé une clé Torx percée de taille T55. Donc voilà, ça se trouve dans à peu près tous les magasins de bricolage de Lyon.
Rubrique nationale.
Je ne céderai rien, ni aux fainéants, ni aux cyniques, ni aux extrêmes.
Il y a, d'un côté, un nouveau totalitarisme, et c'est nous.
C'est pourquoi j'ai décidé qu'en novembre prochain, nous sortirons de l'état de droit.
Et logement toujours, même au national, parce que là, on va vous parler du coup de la loi Elan et des derniers rebondissements qui ont eu lieu cet été, cette semaine, pardon. Alors du coup, mercredi, il y a eu 7 députés et 7 sénateurs qui se sont réunis en commission mixte paritaire pour la dernière étude du projet de loi Elan, donc la loi qui porte sur l'évolution du logement, l'aménagement et le numérique. Et donc, au bout de plusieurs heures, bah, tout le monde a réussi à se mettre d'accord sur un texte définitif. Alors, ce texte, avant qu'il soit adopté définitivement, il faut qu'il soit soumis à un vote à l'Assemblée et au Sénat, ce qui devrait arriver avant la fin du mois de septembre. Mais on a peu de doutes sur le fait que ce texte ne soit pas adopté tel quel. Alors, il n'a pas été encore publié, ce texte, et on n'a pas pu se pencher sur tous les articles qui posaient problème. Et on peut juste savoir ce qui en est dit dans les presses, dans la presse, et donc on peut déjà revenir sur quelques articles phares, et notamment l'article 18. C'est celui qui remet en cause l'obligation de rendre accessible 100% des nouveaux logements. Et le projet de loi initial prévoyait de baisser à 10% ces nouveaux logements accessibles pour toutes et tous. Alors, pendant la commission mixte paritaire, les députés, sénateurs et sénatrices ont négocié sur le pourcentage définitif. Les députés voulaient 10%, les sénateurs 30%. Et puis finalement, ils ont réussi à se mettre d'accord et ils ont dit que ce sera 20% des logements nouvellement construits qui seront directement adaptés. Et ce qui veut dire qu'en fait, il y en aurait 80% qui ne le seront pas. Alors les parlementaires, ils mettent en avant que ces autres logements, ils seront adaptables, qu'on pourra bouger le cloison, changer la douche, mais on imagine en fait assez peu les bailleurs prêts à faire des travaux, même simples, pour qu'une personne en fauteuil roulant puisse aller dans sa salle de bain ou dans sa cuisine, alors qu'il peut louer à des personnes qui n'ont pas besoin de ces aménagements. Et les associations de défense des droits des personnes porteuses de handicap, elles dénoncent aussi la discrimination qui est faite à ces personnes-là, parce que c'est pas une histoire de pourcentage qui va changer quelque chose, en fait, à partir du moment où tout n'est plus accessible, y a discrimination. Et puis surtout, y a la question de l'attribution de ces 20% de logements accessibles qui va poser question et qui n'a pas du tout été traité. Sur d'autres points, il y a la loi SRU qui est assouplie. Les communes, elles avaient normalement jusqu'en 2025 pour compter 25% de logements sociaux. Et sauf que là, il y a eu un petit changement, c'est que les communes qui sont entrées dans ce dispositif après le 1er janvier 2015, en fait, elles auront 15 ans pour atteindre ce quota. Ce qui leur laisse quand même pas mal de temps finalement. Alors, la commission a également obtenu de conserver ce que l'on appelle l'amendement Daubresse, qui prévoit de mutualiser à l'échelle intercommunale l'objectif de 25% de logements sociaux, dès lors qu'elles en comptent toutes déjà 20%. Il n'y aura plus besoin d'accord du maire pour toute vente de logements sociaux dans sa commune. Le gouvernement souhaite en effet développer ses cessions pour enflouer les organismes HLM, qu'il a lui-même mis à la diète, et donc il avait pour ça besoin de faire sauter ce verrou. Et puis les logements sociaux toujours, dans les communes autour de Paris, jusqu'à présent, c'était les communes qui avaient plus de 1500 habitants qui étaient tenues d'avoir un certain nombre de logements sociaux. Et puis en fait, ils ont augmenté ce minimum à 3500 habitants, ce qui évacue un certain nombre de villes. Et puis aussi, il y a de nouveaux types de logements qui pourraient être considérés comme sociaux et entrer dans la comptabilité de ce quota, comme les logements faisant l'objet d'un bail réel solidaire ou d'une location accession sociale à la propriété. On vous avait aussi parlé de la pénalisation des squatteurs, ou en tout cas des personnes qui étaient occupantes sans droit ni titre, de logements à but d'habitation, ce qui regroupe un certain nombre de logements. Et alors, on n'a pas réussi à savoir ce qu'il en était exactement de cet article-là, mais a priori, c'est toujours pénalisé, ce qui n'augure rien de bon pour toutes les personnes qui sont justement à la rue et qui ont réussi à occuper des bâtiments inutilisés. Donc, il y a finalement peu de changements en fait, avec ce qui avait été décidé par le Sénat. Le texte porte de nombreuses atteintes au droit au logement, et pourtant, il y a quand même eu de nombreuses actions qui ont eu lieu un peu partout en France pour essayer de faire bouger les choses, mais malheureusement, ça n'a pas servi à grand-chose.
Et oui, du coup, il y a eu un certain nombre de résistances face à la loi Elan, qui ont eu lieu dans différentes villes. Donc, notamment, en fait, il y a eu plusieurs actions qui ont été mises en place contre l'article 18 de la loi Elan qui du coup fait référence du coup à cette histoire justement d'accessibilité des logements, sachant que voilà tout ce que, là j'ai trouvé quatre résistances locales à la loi Elan. Pour autant il y en a eu bien plus et c'est juste que on n'a pas forcément pris le temps de les recenser toutes. Du coup il y a eu d'abord mardi à Bordeaux en fait un collectif de personnes en situation de handicap qui a bloqué l'entrée de la cimenterie Lafarge parce que du coup leur idée c'était de bloquer l'accès à la cimenterie qui est du coup un gros point d'alimentation en fait en béton des chantiers de l'agglomération bordelaise et le but c'était du coup de bloquer les chantiers de construction et du coup de bloquer les entreprises qui fabriquent et qui construisent les logements qui justement du coup ne sont pas accessibles et c'est notamment ces entreprises et qui sont regroupées au sein de la Fédération française du bâtiment qui est à l'origine de la rédaction de l'article 18 de la loi. Mais il y a eu aussi à Toulouse ce dimanche en fait un péage gratuit qui a été mis en place pour protester contre la loi Elan. Donc un péage gratuit ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'un groupe de 40-50 personnes se pose au péage et empêche les voitures de passer ou en tout cas empêche les voitures de payer le péage et récupère les thunes du péage ou ce que les personnes veulent bien leur donner pour financer leur lutte. Et du coup c'est ce qui s'est passé dimanche à Toulouse et notamment le groupe qui a fait ça mettait en avant le fait que au-delà de toutes les difficultés, ce manque de logements en fait accessibles fait que les personnes en situation de handicap ou les personnes âgées dépendantes en fait se retrouvent à finir leur jour en établissement du fait du manque d'établissement de logements adaptés. Mais ce n'est pas les seules actions qui ont eu lieu. Il y a eu aussi notamment mercredi à Grenoble l'occupation de la permanence parlementaire de La République En Marche. Donc il y a une vingtaine de militants et militantes pour le droit au logement qui se sont introduits dans les locaux des députés de La République En Marche de l'Isère. Donc c'est, je le dis, Olivier Véran et Émilie Chalas qui sont les députés de La République En Marche. Le but de ces militants et militantes, c'était faire pression en fait sur la commission mixte parlementaire qui était en train d'avoir lieu mercredi et du coup que les députés Olivier Véran et Émilie Chalas appellent la commission pour dire que pour en tout cas faire entendre les revendications des militants des militantes du droit au logement qui étaient là et malheureusement Olivier Chalas et Émilie Chalas les deux députés ont refusé d'appeler la commission mixte paritaire et puis au bout d'un moment l'arrivée de la police a fait que l'occupation de la permanence a dû prendre fin. Mais il y en a d'autres à Angers qui du coup ont eu l'idée d'ouvrir une CPAM, une ancienne CPAM pour protester aussi contre la loi Elan. Notamment parce que à Angers la situation en fait est la même que dans toutes les autres villes, c'est-à-dire que le 115 est débordé, le SAMU social aussi, et qu'il y a des dizaines, il y a des dizaines de personnes qui se retrouvent sans logement pour la nuit, et tous les foyers d'hébergement et tous les centres d'accueil sont complètement pleins, alors même que du coup, toujours selon l'INSEE, il y a 12 000 logements vides à Angers. Face à ce constat à la fois de la dégradation de la situation des personnes qui étaient à la rue et du projet de loi Elan, il y a un collectif de personnes qui a décidé de réquisitionner l'ancienne CPAM pour l'occuper et pour du coup visibiliser leur lutte. Et du coup, ça je le répète encore une fois, mais j'ai l'impression de répéter la même chose à peu près tous les vendredis soirs depuis toujours. Mais c'est qu'en fait, la crise d'accès au logement, c'est une réalité et qu'en fait, il y a entre 200 000 à 300 000 personnes qui sont à la rue tous les jours, et que si on prend la problématique du mal logement, c'est quasiment 4 millions de personnes qui sont concernées, et en moyenne chaque année c'est 2000 personnes qui meurent à la rue, que ce soit en été ou en Isère, ou en hiver, mais en Isère aussi, et que face à ça, donc en fait, il y a 300 000 personnes qui sont à la rue, et l'INSEE elle compte 3 millions de logements qui restent complètement vides. Et alors même que ce chiffre a augmenté de 30% depuis 2010, donc 2010 c'était il n'y a pas si longtemps, c'était il y a 10 ans, et la question se posait déjà. Mais il n'y a pas que la loi Elan qui fout la mort en ce moment, il y a aussi la loi Asile et Immigration.
D'accord. On m'a annoncé une musique pour alléger cette rubrique nationale dense en information et en loi merdique.
Et oui, mais la transition était trop belle, alors j'ose pas la couper.
Donc pas de musique, du coup moi j'ai loupé ma transition entre temps. Voilà.
Ah, je suis désolée. Non, mais si, on peut mettre une musique. T'as besoin de préparer ta transition ?
Non, mais c'est bon, j'y vais. Du coup, moi je voulais vous parler de la loi sur l'asile et l'immigration qui malheureusement a été est passée en Assemblée nationale de façon définitive le 1er août 2018. Nous, on vous en avait parlé déjà l'année dernière en tant que projet de loi. C'est Gérard Collomb qui donne le nom à cette loi incroyable, qui a vu le jour en tant que projet en janvier 2018. Voilà, ça n'a pas été un parcours facile parce que la commission mixte paritaire a échoué, le Sénat a rejeté la loi parce que soi-disant elle était trop favorable. Bref, cette adoption date du 1er août et elle a été très très controversée. Il y a eu énormément de protestations et notamment il y a eu une grève de la Cour nationale du droit d'asile, des avocats et avocates de l'asile, de l'OFPRA, des grèves qui sont, comment dire, rarissimes. Même après l'approbation, il y a eu deux saisines du Conseil constitutionnel de la part des sénateurs et des députés. Le Conseil constitutionnel a validé l'ensemble du texte le 6 septembre. Donc malheureusement, il paraît que la loi est passée. Et du coup, on va essayer de vous en expliquer certaines parties, sachant qu'on ne pourra pas tout expliquer, elle est assez dense et juste il faut comprendre que globalement elle implique un durcissement des conditions d'accès au droit d'asile, au droit au séjour pour les personnes étrangères, un durcissement de tout ce qui concerne l'éloignement, la répression, le contrôle. Et juste pour vous citer une partie d'une circulaire d'information qui a été mise par le ministère le 11 septembre, je cite parce que ça explique bien. En fait, c'est une lettre d'information qui vise à expliquer aux administrations à quoi ça sert cette loi. Et du coup, ils disent, je cite, « Son titre 3 rassemble des dispositions visant à renforcer l'efficacité et la crédibilité de la lutte contre l'immigration irrégulière. Il s'agit en particulier de sécuriser le prononcé des décisions d'éloignement, de renforcer l'efficacité de leur mise en œuvre et d'aménager les modalités de leur contrôle contentieux. » Voilà l'esprit de tout ça. Du coup, moi je vais vous expliquer juste quelques points, on va essayer d'être un peu rapide, sachant que sur le site de la CIMAD, vous trouvez un document qui vous explique un peu les points saillants de cette loi de façon assez compréhensible. Du coup, dans les mesures qui concernent l'asile et qui sont, vous allez voir, très restrictives par rapport à ce qui existe maintenant, il y a une première mesure qui prévoit que, en gros, les personnes qui veulent demander l'asile, elles ont intérêt à le demander dans les 90 jours depuis leur arrivée en France. Parce que s'ils le font après ces délais-là, on va analyser leur demande selon la procédure accélérée. alors que ce délai aujourd'hui, avant cette loi, c'était de 120 jours. Qu'est-ce que ça veut dire avec la nouvelle loi, être en procédure accélérée ? Au-delà du fait que les délais de traitement sont beaucoup plus rapides, donc aussi la profondité en gros de l'analyse, on imagine, elle est un peu moindre. Et du coup, les personnes qui seront en procédure accélérée, ils n'auront plus droit à l'hébergement ni aux allocations qui sont prévues pour toute demandeuse d'asile, toute demandeur et demandeuse d'asile actuellement. Les délais de recours en cas de refus en première instance de sa demande d'asile, au final, restent d'un mois, alors que dans le projet de loi, on avait proposé de le réduire à 15 jours. Mais il y a quand même des délais de dépôt et d'instruction des demandes qui pourraient être réduits par décret, donc ça, on ne sait pas encore. Ce qui est sûr, c'est que le droit au recours, il sera quand même mis en danger par le fait que la visioconférence va être rendue possible dans énormément de cas. Et du coup, ça veut dire que les juges pourront juger une personne qui est très loin, qui est potentiellement en rétention dans un autre département et qui voit uniquement sur Skype. Cette personne va voir un juge sur Skype. Il va potentiellement pas trop comprendre ce qui se passe. Et on peut imaginer qu'elle aura beaucoup plus de mal à s'exprimer et à se défendre. Jusqu'à maintenant, les personnes qui faisaient un recours contre le refus de leur demande d'asile avaient le droit de se maintenir en France au séjour jusqu'à la fin de la procédure, du coup jusqu'à la décision de la Cour nationale du droit d'asile. Et avec cette nouvelle loi, c'est plus le cas pour tout le monde. C'est-à-dire, c'est plus automatique pour tout le monde. Les personnes originaires des pays dits sûrs, celles qui demandent un réexamen ou celles qui sont considérées comme des menaces à l'ordre public, elles n'auront plus le droit de rester en France pendant leur recours, sauf si elles font la demande à un juge. Et même si le juge accorde ce droit, du coup, elles pourront être assignées à résidence ou enfermées en rétention. Du coup, elles pourront rester sur le territoire, certes, mais c'est l'une des conditions qui ne sont pas tout à fait de liberté. La loi prévoit aussi une systématisation de la fin de la protection, notamment pour des personnes qui ont commis des délits qui sont punis de 10 ans d'emprisonnement, qui sont considérées comme des menaces pour la sécurité publique. Elles étaient réfugiées, donc on leur reconnaissait un risque de persécution dans leur pays. Si elles commettent un délit puni de 10 ans d'emprisonnement, on considère qu'au final, dans leur pays, elles étaient très bien et elles risquent plus rien. Et ça devient automatique, alors qu'avant, c'était une possibilité. Il y a une mesure qui prévoit que les demandeurs d'asile et les demandeuses d'asile peuvent être répartis dans les régions de France comme l'État le souhaite, sans que cela soit lié à un droit à l'hébergement. Et s'ils refusent, ils n'auront plus d'allocation. Ça, c'était certaines mesures concernant l'asile. Concernant l'éloignement et tout ce qui se passe en cas de refus de droit à l'asile ou de droit au séjour, il y a aussi des mesures très inquiétantes, notamment le temps de rétention administrative maximale. Il passe de 45 jours à 90 jours. C'est deux fois plus, vous aurez tout de suite compris. Et c'est la première fois dans l'histoire de France qu'un gouvernement propose un délai aussi important. Sachant que il y a énormément de preuves qui disent que plus le temps de la rétention est long, plus il se passe rien pendant la rétention. En fait, l'éloignement, il se passe souvent au début de la rétention. Donc ça, en gros, ça sert à rien. Ça sert juste à épuiser les personnes, à les humilier et à les cacher de la société. En plus, il y a aussi une généralisation de l'assignation à résidence qui est prévue. C'est-à-dire que si on reçoit une OQTF, une obligation de quitter le territoire français, avec beaucoup plus de facilité, la préfecture pourra nous assigner à résidence. Ce qui fait que, par exemple, les personnes, elles auront l'obligation de rester dans leur domicile ou dans le lieu qu'elles déclarent comme leur domicile pendant des horaires fixes dans la journée. Ce qui fait que si la police aux frontières a envie d'aller les chercher, elles savent exactement où et à quelle heure. Ça sera hyper pratique pour éloigner les gens de force. On rappelle que jusqu'à maintenant, l'assignation à la résidence, elle est prévue pour certains cas précis. Mais par exemple, si on a un OQTF avec un délai de départ volontaire, non, ça c'est pas possible. La nouvelle loi, elle enlève cet obstacle, et elle généralise aussi le bannissement de l'espace Schengen. Si on a un OQTF et qu'on ne quitte pas la France, et ben la prochaine fois, on aura aussi une interdiction de retour du territoire français. Et ça, ça c'est assez tragique. En fait, on n'en parle pas beaucoup parce que c'est un peu technique, mais en fait, c'est une mesure qui peut durer de 2 à 5 ans et qui, en gros, va empêcher les personnes de faire tout type de démarches. Genre potentiellement, après, ça dépend de comment ça va être appliqué dans chaque département, mais qui potentiellement peut empêcher une personne de faire tout type de demande pendant plusieurs années. Et ensuite, le fichage est aussi à l'ordre du jour dans cette nouvelle loi. Typiquement, pour les mineurs non accompagnés, dont la minorité est toujours mise en discussion, et bah, pour quand même mieux comprendre toute la procédure, pour mieux suivre la procédure de la part des administrations, qu'est-ce qu'ils ont bien pensé ? C'est de prendre leurs photos et les empreintes tout de suite. Dès qu'ils se déclarent mineurs, et bah, vas-y, on les fiche. Comme ça, on a une trace. C'est beaucoup plus pratique. Et en plus, qu'est-ce qui se passe aussi pour tout ce qui est affichage ? Parce que du coup, jusqu'à maintenant, quand même, toutes les personnes qui font une demande de titre de séjour en préfecture, dans les empreintes, il y a les passeports biométriques, quand même, voilà, tout le monde est grosso modo fiché. Mais ce qui prévoit de nouveau cette loi, c'est que si on refuse de se soumettre à une prise d'empreinte, et ben tout d'un coup, ça devient un délit pénal. Et ça peut donner un an d'emprisonnement et 3750 euros d'amende. Juste si on refuse de donner ses empreintes. Ce qui, jusque-là, bah, ça a bloqué les démarches, mais ça a resté un droit un peu voilà, fondamental. Du coup, voilà, là, il y a encore énormément de choses, on n'aura pas le temps de tout voir. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est que ces dispositions-là, elles ne vont pas entrer toutes en application tout de suite. La grande partie entrera en application le 1er janvier et le 1er mars. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas encore les décrets d'application, ce qui veut dire qu'il y a encore un petit peu de marge pour lutter, pour essayer que ça ne soit pas trop la catastrophe. Sur le site des États généraux des migrations, par exemple, il y a un agenda où il y a tous les événements au niveau national qui concernent la solidarité avec les migrants et migrantes et la lutte contre cette loi. Et sûrement, on va vous en parler au fur et à mesure que les décrets d'application vont sortir. Et on reste dans le thème des migrants et migrantes et de lutte, parce que là, on va passer à Paris. On a un invité spécial qui nous vient directement de la région parisienne pour nous parler d'un collectif de migrants qui lutte depuis plusieurs années pour une régularisation, pour des conditions de vie, pour un hébergement, et qui lutte et qui occupe des lieux et qui se fait expulser aussi. Donc l'actualité, ce n'est pas forcément très joyeuse, mais du coup, voilà, notre invité est là pour nous en parler. Déjà, est-ce que tu peux te présenter rapidement ?
Ouais, bah salut, moi c'est Gaïa. Je fais partie du coup du collectif des soutiens du collectif dont tu parles, qui est le collectif Bara, qui est un collectif de migrants sans papiers qui viennent pour la plupart de l'Afrique de l'Ouest et qui existe depuis 2012, qui s'est créé à partir d'une occupation d'un petit square à Montreuil, qui se trouve en banlieue parisienne en Seine-Saint-Denis. En 2012, quand un groupe de sans-papiers sont arrivés dès l'Italie et dès l'Espagne et sont retrouvés devant le foyer Bara, qui est un foyer pour immigrants sans-papiers maliens, qui est connu au Mali parce que, enfin, ils sont arrivés à Montreuil parce qu'ils savaient que ce foyer existait et ils se sont retrouvés là-devant parce qu'ils espéraient trouver de la place à l'intérieur du foyer. Mais comme il n'y avait pas de place, ils ont commencé à occuper les squares en face, demandant à la mairie d'être hébergés. Chose qui n'est pas arrivée. Donc ils ont décidé de créer un collectif et de commencer à lutter pour avoir un toit et pour avoir des papiers. Et ils ont commencé à occuper des bâtiments vides entre Montreuil, Bagnolet, Les Lilas, qui sont des banlieues proches, enfin entre elles, dans l'Est parisien.
Juste pour donner une idée, il y a combien de personnes dans ce collectif ?
Au départ, il y avait à peu près 150 personnes. Là, ils sont plutôt entre 80 et 70.
Et du coup, tu me disais que c'est plutôt des personnes qui travaillent, même si elles n'ont pas forcément des papiers.
Oui, la plupart ont un titre de séjour italien. Donc, ils ont les droits de traverser la frontière, mais ils n'ont pas les droits de vivre en France de manière stable. Mais ils sont quand même en France depuis des années. Ils travaillent plutôt dans les secteurs du bâtiment et du nettoyage. Et voilà.
Et du coup, depuis 2012, il y a eu plusieurs occupations. Du coup, suivi à chaque fois d'une expulsion. Du coup, est-ce que peut-être tu peux en parler de la dernière qui s'est finie avec une expulsion en mois d'août et même celle d'avant qui a duré quand même 2 ans?
Oui, depuis sa création, le collectif demande à être déjà la régularisation de tous ses membres et à avoir un toit stable et fixe. Sauf que ceci paraît impossible, et de la part de la préfecture et de la part des mairies qui sont à chaque fois interpellées. Et du coup, le collectif, avec l'aide des soutiens, du coup, a commencé à squatter des différents endroits. L'avant-dernière squat, c'était un ancien pôle emploi où le collectif est resté pendant 2 ans et d'où ils se sont fait expulser en juillet 2017. Suite à l'expulsion, ils ont passé un mois à la rue sous un pont qui se trouve à Bagnolet, qui est un échangeur où ils ont campé pendant un mois, en demandant à la mairie de trouver une solution, de leur ouvrir un gymnase et de les héberger, chose qui apparaissait comme impossible. Donc après un mois de campement à la rue, on a réouvert un bâtiment, une ancienne blanchisserie qui avait été rachetée par France Habitation, qui prévoyait d'y faire des logements sociaux, mais qui n'avait toujours pas commencé le chantier. Donc le collectif s'est installé dans la blanchisserie, sauf qu'il n'y avait pas d'électricité dans les bâtiments. Donc ils ont quand même habité pendant 6 mois sans électricité. Il faut savoir que le bâtiment, il a été ouvert au mois d'août et l'électricité, elle a été branchée au mois de décembre. En plus, avec une puissance très faible, alors qu'il s'agit quand même de 80 personnes. Dans un bâtiment, il n'y a pas de chauffage à gaz, donc chauffage électrique. Donc l'électricité est sautée chaque 10 minutes. Donc voilà. Et du coup, il y a une procédure légale qui se déclenchait. Et France Habitation, elle a demandé l'expulsion du collectif. Et il y a eu un appel au mois de juin, dont on attendait le rendu pour le 13 septembre. Mais dans l'attente du rendu de l'appel, le collectif s'est quand même fait expulser. Donc France Habitation a saisi la préfecture pour qu'elle agisse vite, pour vider les bâtiments. Et ils se sont fait expulser le 20 août dernier. Et depuis, à nouveau, ils squattent sous le même échangeur où ils étaient l'été dernier. Depuis on a organisé des rassemblements et des manifs pour demander toujours à la mairie de trouver une solution d'urgence, mais pour l'instant rien n'a été proposé, du coup voilà.
Et parce que tu me disais que du coup il y a un an il y avait même une possibilité de légaliser un foyer dans l'ancienne occupation et qu'en fait il y a eu un blocage de la mairie, justement.
Oui, c'est quelque chose qui s'est déjà passé à Montreuil pour un autre collectif de sans-papiers maliens qui habite dans un foyer qui s'appelle les Foyers Serrants, qui se trouve toujours dans le bas Montreuil et qui avait commencé à occuper un bâtiment qui ensuite a été régularisé et où les migrants habitent maintenant de manière régulière. Et les barailles demandent ça depuis le début. C'est une de leurs revendications de pouvoir être régularisé dans les bâtiments où ils habitent. Et après l'expulsion du Pôle emploi pendant l'été 2017, le propriétaire du Pôle emploi avait évoqué la possibilité de régulariser, enfin de faire des travaux dans les bâtiments et de du coup le rendre un foyer. Sauf que il fallait que soit la mairie, soit la préfecture, la mairie de Bagnolet dans ce cas, parce que le Pôle emploi se trouve dans la commune de Bagnolet, se porte garant du projet. Et ni la préf ni la mairie ont voulu faire ça. Et surtout, il fallait de l'argent pour faire les travaux à l'intérieur du bâtiment, alors que c'est un collectif de travailleurs qui travaillent pour la plupart dans les secteurs du bâtiment. Donc, ils ont dit plusieurs fois qu'ils auraient bien voulu faire les travaux à le BAT, et ça a été refusé parce qu'il n'y a pas les conditions de sécurité, tout ça. Donc, le projet a complètement échoué. Et maintenant, la mairie a recommencé à évoquer cette possibilité, à mon avis personnel, pour calmer un peu les esprits, parce qu'ils ont bien vu qu'il y a 90 personnes à la rue qui demandent à être hébergées quelque part, et qu'il y a une urgence, et qu'ils n'ont pas de solution à proposer, ou ils ne veulent pas proposer une solution.
Et du coup, par rapport à la revendication d'une régularisation collective, est-ce que tu peux nous expliquer ce qui a été mis en place en termes de stratégie de lutte ?
Oui, du coup, comme c'est un collectif assez vaste et qu'ils travaillent tous dans des secteurs, enfin, le secteur c'est le même, mais ils travaillent tous dans des entreprises différentes. Du début, ils se sont dit, ce qu'il faut faire, c'est déposer un dossier collectif pour qu'on puisse avoir tous des papiers, parce que ils sont tous en France depuis désormais 6 ans, voire plus, mais ils peuvent pas tous prouver leur permanence en France. Donc, on a essayé plusieurs fois de déposer ces dossiers collectifs à la préfecture, sauf que ça fait depuis quelques années que la préfecture elle refuse tout dépôt de dossiers collectifs, que ce soit par des travailleurs ou par des étudiants, parce que on a eu une occupation d'étudiants sans papier pendant le printemps dernier, et pareil, ils ont déposé un dossier collectif qui a été complètement refusé, et les peu de dossiers collectifs qui ont abouti à une régularisation, c'était dans des cas de collectifs plus petits, et qui travaillaient tous au même endroit. Par exemple, il y a eu une occupation de travailleurs du marché de Rungis il y a 2 ans, qui était soutenue par la CGT et qui aboutit à une régularisation des personnes sans papier. Mais dans ce cas, il y avait les syndicats en appui, et en plus, ils travaillaient tous au même endroit, donc c'était un peu plus simple.
Et du coup, je vais te poser une dernière question parce qu'on est un peu en retard. Mais c'était plus par rapport à qu'est-ce que ça apporte le fait d'être en collectif. Du coup, même s'il n'y a pas forcément des grosses victoires au niveau de régularisation, au niveau de logement, et de quel lien et quelle entraide ça peut être créé avec d'autres collectifs, avec le quartier. Tout à l'heure, tu m'avais parlé de tout ce qui peut être reconnaissance, de résistance aux expulsions. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ?
Comme ça fait 6 ans que le collectif existe, on est quand même, et 6 ans qu'on se fait expulser, on est quand même un peu rodé sur tout ce qui est galère liée à l'expulsion, et même les galères de contrôle de papier et tout. Et le savoir, il circule pas mal, même entre les membres du collectif. Du coup, en vrai, les soutiens qu'on fait, c'est vraiment un soutien qui est purement logistique et d'accès aux informations. Mais après, il y a aussi... Ils connaissent mieux que nous, et désormais ils font face à la justice. Il y a sûrement des aspects logistiques sur lesquels nous on peut être un appui en tant que personnes qui ont des papiers, mais sinon une des forces, c'est aussi fait qu'ils font face aux débrouilles de manière collective. Et même à l'intérieur du collectif, il y a des gens qui ont réussi à se faire régulariser, mais ils n'ont pas décidé de décrocher de la vie du collectif, mais ils continuent à lutter pour la régularisation collective. Donc c'est aussi une manière d'utiliser les papiers qu'ils ont réussi à avoir à l'intérieur d'une lutte qui est collective. Et ils savent très bien que les critères imposés, ils sont très stricts, et que si eux, ils ont réussi à les avoir, ils peuvent utiliser cette force ou ce privilège pour s'entraider avec les autres. Après, c'est dur parce que, ils se font expulser tous les étés, et le dernier bâtiment, le fait qu'il n'y ait pas d'électricité, ça a quand même un peu cassé la vie collective, parce que même de se voir, d'avoir des espaces collectifs et de les gérer collectivement, c'était très compliqué, alors qu'il y avait des besoins de base qui étaient difficile à accomplir.
Et du coup, on est super en retard, du coup, on va mettre fin à ces entretiens, même si c'était super intéressant. Ça nous fait aussi beaucoup penser à l'amphizède, à tout ce qui peut être possible à Lyon. Et du coup, merci beaucoup.
Merci à vous.
On continue.
À l'évidence, ce matin, Thomas est en retard. Pourtant, en consommant du café et des produits bio et équitables, il est plutôt en avance.
Ta gueule !
Avec le jus multipesticide de Leclerc, faites aimer les pesticides à vos enfants.
Viens boire un café avec les artistes.
Radio Canu.
Et voilà, vous êtes sur Radio Canu, c'est l'heure du Canu Info et c'est l'heure de la rubrique un peu nucléaire. Et donc du coup je vais vous parler d'un incident, ou plutôt d'un accident qui a eu lieu le 19 septembre donc sur le site de conversion d'uranium de Malvézie, qui est un site détenu par Orano, qui est ex-Areva du coup. Et donc, ben, comme à chaque fois qu'il y a des incidents ou accidents dans ce genre de site, la communication est pas souvent très très claire. Et pour cause, par exemple, Orano, officiellement, ils ont communiqué qu'il s'agissait d'un dégagement de fumée. Donc on imagine qu'un dégagement de fumée dans un site nucléaire, il s'agit pas d'un barbecue, et que il y aurait ce dégagement de fumée serait à l'origine de ce dégagement de fumée, ça serait des fûts qui contiendraient des oxydes métalliques, mais on n'en sait pas plus, et qu'il y aurait deux personnes qui auraient été légèrement blessées par ces dégagements de fumée. Et donc dans ce communiqué, qui est assez court, etc., il n'y a absolument pas mention, par exemple, il n'y a absolument pas les mots comme radioactivité, nucléaire, etc., enfin les vrais mots en fait qu'il faudrait mettre sur ce genre de communiqué. Donc on a l'impression qu'il s'est à peu près rien passé. Sauf que ce fameux dégagement de fumée, en réalité serait lié à une détonation, donc ce qui est quand même pas du tout anodin, lors de l'ouverture d'un fût. Donc ça, c'est une information qui émane d'un communiqué de la préfecture. Et ces oxydes métalliques, comme Orano les appelle, donc en fait contiendraient des matériaux radioactifs de très forte radiotoxicité. Donc ça, c'est une information qui nous vient de la CRIRAD. CRIRAD, qui est une association qui fait donc la CRIRAD, ça veut dire Centre de Recherche d'Information sur la Radioactivité. Donc qui fait un travail un peu de justement pour faire des mesures, etc., de ce qui se passe quand il y a ce genre d'incident. Et donc voilà, donc ce communiqué de Rano, en fait, ben c'est pas la première fois qu'ils font ce genre de communiqué très évasif où ils minimisent très très fortement ce qui se passe, puisque en 2004 ils avaient évoqué 30 000 mètres cubes de boue et de solutions nitriques qui s'étaient déversées. Sauf que, en fait, ils ont oublié de préciser que ces boues contenaient des produits radiotoxiques, dont du plomb 210, du thorium 230 et du plutonium. Donc, effectivement, quand on parle de boues qui se déversent, on se dit, bon, ok, c'est des boues. Si on rajoute les mots comme plutonium derrière, tout de suite, c'est pas la même chose. Et donc, sur cet incident du 19 septembre, la direction d'Orano a quand même précisé qu'il s'agissait de très faibles quantités d'uranium appauvri. Alors, quand on parle d'uranium appauvri, hein, faut bien comprendre qu'il s'agit quand même d'uranium radioactif, puisque l'activité de ce genre de produit, c'est de l'ordre de 40 millions de becquerels par kilogramme. Mais dans ces 40 millions de becquerels par kilogramme, il y a beaucoup de particules, donc il y a des particules gamma, bêta et alpha, et c'est ces dernières qui sont très 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 dangereuse, notamment par inhalation. Et donc du coup il faut que je termine assez rapidement a priori. Du coup par rapport à ce qui s'est passé là-bas, il y a encore beaucoup de zones d'ombre, notamment l'origine des produits qui ont été qui ont été déversés un peu dans l'environnement proche de l'usine. Notamment les deux personnes qui ont été blessées, en fait on sait très peu de choses, puisqu'on ne sait pas si elles ont inhalé les produits, on ne sait absolument rien. Et concernant aussi les mesures qui ont été prises les mesures de les moyens de métrologiques pour mesurer les taux de radiation, toutes les procédures en fait auxquelles on s'attend dans ce genre d'incident, à ce que ce soit mis en place sur ce type de site. Et sachant que là, on nous évoque un seul fût, et c'est dans ce genre de site, il y en a plusieurs milliers. Donc voilà, donc c'était pour vous parler de ce genre d'incident qui, comme d'habitude, passe à travers des flux d'informations et sont très discrètement et avec des communiqués très évasifs. Donc voilà. Je voulais vous parler des conséquences un peu ou des inquiétudes qu'il y a eu face au passage de l'ouragan. Mais je vous en parlerai peut-être une autre fois puisqu'on est déjà très en retard. Voilà.
Invisible, disponible, libre et irréductible. Invisible, disponible, libre et irréductible.
Du vendredi. Et on va donc direction les États-Unis puisque ce mardi, plusieurs manifestations y ont eu lieu simultanément. C'est des centaines de salariés de McDonald's, des femmes pour la plupart, qui ont fait grève ce jour-là dans une dizaine de villes américaines pour protester contre la culture du harcèlement sexuel chez McDonald's, un des plus gros employeurs des États-Unis. Célèbre donc pour le clown qui lui sert de mascotte, mais aussi pour ses emplois précaires et sous-payés. Leurs revendications sont très concrètes, une politique d'entreprise interdisant formellement le harcèlement sexuel et des formations obligatoires pour les employés et les managers. Les plaintes et les discours des salariés pointent en effet régulièrement l'inaction de leurs supérieurs, ce qui n'est pas propre à McDonald's, convenons-en. Dans une multinationale où toute tentative d'organisation des salariés est découragée, les modalités de cette grève ont été discutées au sein de comités de femmes, souvent en lien avec les activistes du mouvement Fight for 15. Ce mouvement, c'est une mobilisation débutée en 2012 par les salariés de la restauration rapide, dont le but est d'obtenir la hausse du salaire minimum à $15 de l'heure, alors qu'il est bloqué à 7,25 depuis 9 ans. Et la plupart des salariés de McDo sont payés autour de $8-9 de l'heure. Avec 14 000 restaurants aux États-Unis et 1,7 million de salariés dans le monde, McDonald's est donc un symbole, celui d'une industrie de la restauration qui cumule mauvais salaires, horaires irréguliers, absence de protection syndicale et un problème systématique de harcèlement sexuel. Pour les salariés de McDonald's, MeToo a pu être une inspiration, mais cette mobilisation s'appuie aussi sur des mobilisations plus anciennes contre le harcèlement sexuel. Ces salariés font partie d'un mouvement national, mais aussi global, qui a commencé bien avant les actrices célèbres de MeToo, sauf que peut-être qu'avant aussi cette grosse mobilisation, elles étaient beaucoup plus invisibilisées. Donc soutien à ces grévistes de McDonald's.
Et on fait quoi maintenant ?
Devine, mon premier est une personne qui n'a pas mangé. Mon second est oui en russe. Et mon tout est un outil permettant d'associer des actions et des moments et d'organiser ainsi son temps. C'est...
L'agenda !
Et oui, le Canu Info du vendredi soir est encore une fois à la bourre. Mais du coup, on en revient pas vous dire que en ce moment, c'est Passa Montagna. Passa Montagna, c'est quoi? C'est 5 jours contre les frontières et contre le monde qui les construit. Du coup, il y avait dès mercredi, mais du coup là, tout de suite, qu'est-ce qu'il faut faire? Faut filer dès demain matin à Clavière pour un pique-nique et sport populaire avec ensuite des discussions, de la musique live, plein de trucs incroyables et même dimanche, des discussions autour du dépasser le vous et le nous et à 15h un incroyable bilan mais on n'en saura pas plus sur Passa Montagna mais par contre on va en savoir plus sur la manif qui a lieu mercredi
oui comme on vous a dit tout à l'heure mercredi 26 septembre à 15h30 vous êtes invités à être nombreuses devant la métropole 20 rue du Lac pour ensuite marcher jusqu'à la préfecture pour demander le dédublinage collectif de tous les habitants habitantes de l'Amphizède.
Et puis le 27, au matin, il y a, il fallait soutenir du coup les déboulonneurs des appareils anti-SDF au tribunal.
Et oui, alors je ne sais pas ce que tu considères comme le matin, mais le procès est à 14h. Le procès est à 14h. Mais du coup, chacun et chacune considérera si le matin c'est 14h ou pas. Mais du coup, c'est 14h au DGI, à la chambre numéro 7. Et je rappelle qu'il faut une clé Torx percée T55, du coup, pour déboulonner ces arceaux métalliques. Mais si je me rappelle bien, un cab, ça veut dire quoi déjà?
À l'automne, continuons d'enfariner les bouffons.
Et du coup, le canard du vendredi est fini. On vous laisse avec Noise Pollution.